Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. C'est le moment du journal en français dont voici d'abord les principaux titres. Le Conseil des avocats du barreau de Bujumbura dénonce une violation flagrante de la loi dans l'arrestation et l'emprisonnement de Sandra Ndayizeye, avocat du docteur Christophe Sarabo. Ce conseil demande sa libération immédiate et inconditionnelle. Le même constat de violation de la loi est fait par les avocats de Christophe Sarabo devant les juridictions internationales. Ces avocats regrettent par ailleurs des mensonges grossiers dans la déclaration du procureur général de la République ce jeudi sur le dossier Kira Hospital. Le procès rendu par la Cour de la Communauté des pays de l'Afrique de l'Est sur l'inconstitutionnalité du troisième mandat de feu Pierre Mondiza n'a plus de valeur. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit ce vendredi lors d'une conférence publique des porte-paroles des institutions. Le gouvernement doit réhabiliter les victimes de ce troisième mandat, nous dira dans ce journal en homme de la loi. Et puis, le personnel de la société de gardiennage Alpha Security Company ASEC est mécontent. Il condamne entre autres le non-respect des délais dans le paiement des salaires. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Il y a eu violation du code de procédure pénale dans l'emprisonnement de l'avocat du docteur Sarabo cité dans le dossier de Kira Hospital. Dans une déclaration publiée ce vendredi, les avocats du docteur Sarabo devant les juridictions internationales font remarquer que la loi n'a pas été respectée depuis l'arrestation de l'avocate Sandra Ndayizeye et du frère du docteur Sarabo. Maître Gustave Nyonzima, l'un de ses avocats, explique que contrairement aux propos du procureur général de la République ce jeudi, ces deux prévenus sont en prison parce qu'ils sont proches du docteur Christophe Sarabo. On écoute Maître Gustave Nyonzima, l'un des avocats du docteur Sarabo devant les juridictions internationales.
Les prévenus actuellement détenus à la prison centrale de Mihimba l'ont été du fait qu'ils sont très proches du docteur Christophe Sarabo que nous défendons devant les juridiction internationale. Et ces prévenus ont été arrêtés manu militari en date du 27 septembre 2022 sous un mandat d'amener pour qu'ils comparaissent devant le magistrat instructeur. Juridiquement étayant les articles 116 et 396 du code de procédure pénale exige qu'un mandat d'amener est décerné contre toute personne qui refuse de comparaître après une convocation prévue à l'article 14 du même code de procédure pénale adressée régulièrement à cette personne par une juridiction de jugement ou le ministère public. Dans le cas d'espèce, d'abord les deux prévenus détenus n'ont pas reçu préalablement des convocations à cet effet et ensuite n'ont pas été informés légalement des charges d'accusation leur reprochées, même lors de l'interrogatoire. Et cela transgresse de fond en comble les articles 10 alinéa 5 et 138 du code de procédure pénale ainsi que l'article 9 deuxième paragraphe du pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Burundi a ratifié. Ce qui est plus grave comme violation flagrante de la loi procédurale, les deux prévenus détenus et leurs avocats n'ont pas pu voir dès leur arrestation en date du 28 septembre 2022 leur titre légal de détention.
Selon toujours les avocats du docteur Sarabo devant les juridictions internationales, le procureur général de la République a menti dans sa déclaration d'hier jeudi. Encore une fois, Maître Gustave Nyonzima.
Et si l'on s'en tient au fond de l'affaire en l'effraie, De prime abord, on a tiré la conclusion que la teneur du dit communiqué est in extenso identique à la plainte du 19 septembre 2022 de M. Charles Ndagijimana, autoproclamé président du conseil d'administration d'Okira Hospital. Le communiqué n'a fait que paraphraser la plainte du 19 septembre 2020 déposée donc par le président du conseil d'administration autoprogrammé. Parmi les actionnaires d'Okira Hospital, dont la plainte argue qu'ils ont révélé lors de leurs auditions n'avoir pas participé à l'Assemblée générale du 8 septembre 2022 et avoir été contactés par téléphone pour apposer leur signature sur un procès verbal de cette Assemblée générale. Le 8 septembre 2022, selon donc ce communiqué, laquelle l'Assemblée n'a pas eu lieu, il y a lieu de préciser qu'il n'y a que trois actionnaires qui se sont désistés suite aux menaces, contraintes, forces et pressions orchestrées par le Service national de renseignement. Deux de ces trois actionnaires dont parle le communiqué se trouvent au Burundi et l'autre se trouve à l'étranger. Et ce dernier est le frère de l'un de ses actionnaires qui se sont désistés. Étant à l'étranger, il a été convaincu par sa sœur de l'emboîter dans le pas afin de sauver sa peau suite aux menaces, contraintes, forces et pressions subies. Du point de vue de la loi, leur désistement n'affecte en rien la décision de la majorité absolue prise lors de l'Assemblée générale du 8 septembre 2022.
Et le Conseil de l'Ordre du Barreau de Bujumbura constate également de graves violations des règles élémentaires de la procédure pénale dans l'arrestation et l'emprisonnement de l'avocate Sandra Ndayizeye. Ce Conseil demande la libération immédiate et inconditionnelle de Sandra Ndayizeye. Cette demande a été faite ce vendredi dans un point de presse animé ce vendredi. Écoutez plutôt Maître Salvatore Minani, secrétaire de ce Conseil Ordre des avocats.
Sans aucune intention de s'opposer à la manifestation de la vérité dans cette affaire, le Conseil de l'Ordre s'est tout de même étonné de l'arrestation et la conduite à la prison centrale de Mbimba de cet avocat qui était et reste pourtant disposé à coopérer avec la justice. Le même Conseil a jusqu'ici remarqué avec consternation de graves violations des règles élémentaires de procédure pénale. En effet, alors que Maître Sandra Ndayizeye ignorait qu'elle était poursuivie sur quoi que ce soit, on lui a présenté un mandat d'amener afin qu'elle comparaisse devant le magistrat instructeur le 27 septembre 2022. Il faut préciser qu'un tel mandat est généralement décerné contre une personne qui a refusé de comparaître, comme nous l'enseignent les dispositions des articles 116 et 396 du Code de procédure pénale, livre 2. Par ailleurs, pendant l'interrogatoire, Maître Sandra Ndayizeye n'a jamais été officiellement informée des charges qui pèsent contre elle. Il s'agit d'une situation qui constitue, une fois de plus, une grave violation du Code de procédure pénale en son article 138, dernier paragraphe, ainsi que l'article 9, paragraphe 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui se lit comme suit. Tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation et recevra notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. Maître Sandra Ndayizeye, encore moins ses conseils, n'a pas vu au moment de son arrestation le titre de détention. Le Conseil de l'Ordre demande une libération immédiate et inconditionnelle de Maître Sandra Ndayizeye qui comparaîtra étant libre en attendant l'issue définitive de cette affaire aujourd'hui en instruction.
L'arrestation du docteur Christophe Sahabo et de son avocate Sandra Ndayizeye est une spéculation purement politique selon Frédéric Vambouillon-Villa, le président de la coalition politique Sefort Arusha. Pour lui, l'État veut s'approprier les entrées financières de cet hôpital qui se chiffre en termes de plusieurs millions de devises. On l'écoute.
Maintenant, faire intervenir la police du président, ça veut dire le renseignement et carrément, cela montre que le dossier est politique. Le deuxième aspect qui montre que le dossier est assez politique, c'est bel et bien la précipitation de remplacer Dr. Sahabo au niveau du conseil d'administration par M. Ndagijimana, qui est assez impliqué dans beaucoup de dossiers où, visiblement, c'est un instrument du pouvoir. Il gérait la Sokabo comme récompense après avoir servi le pouvoir au niveau de la Cour constitutionnelle, qui a été porteuse de beaucoup de malheurs. Je crois qu'à ce moment-là, M. Ndagijimana, qui est appelé à aller continuer à travailler dans Kira Hospital à partir de la Sokabo pour essayer de manigancer, quitte à ce que l'objectif du pouvoir soit atteint, je crois que tout cela montre que le dossier est vraiment politique. Parce que l'objectif, au final, c'est de mettre la main sur l'argent de Kira Hospital. Parce que visiblement, cet hôpital draine beaucoup de fonds et à partir du moment, il y a même des devises qui sont utilisées dans cet hôpital parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se faire soigner là-bas alors que ce ne sont pas des Burundais, ils doivent payer en devise. Mais je crois que c'est une des raisons qui a motivé le gouvernement à chercher à avoir une mainmise sur la gestion de l'argent de Kira Hospital. Dans ces conditions, vous comprendrez que Maître Sandra Ndayizeye a été justement une pièce maîtresse dans ce travail de faire une opposition sur l'utilisation de l'argent de Kira Hospital, l'argent déposé dans des banques. Même si l'intervention du procureur général d'hier pour justifier l'arrestation de ces autres personnes, ça n'a rien à voir avec cela.
Inzamba.
Les Burundais ne devraient pas trop s'attendre du procès prononcé par la Cour de la Communauté des États d'Afrique de l'Est sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza jugé inconstitutionnel. Le porte-parole du gouvernement burundais l'a déclaré au cours d'une conférence publique de ce vendredi. Prosper Ntahorwamiye a indiqué que le dit mandat a expiré avec l'an 2020 et que le concerné est déjà décédé. On écoute le porte-parole du gouvernement.
Ce procès n'aura pas beaucoup d'impact parce que le mandat qui faisait objet de conflit depuis 2015 jusqu'à 2020 a déjà expiré. Même celui qui était concerné par son mandat, Dieu a décidé autrement. Il n'est plus. C'est ce qu'on appelle sans objet. Il n'y a plus de raison de ce procès. C'est devenu le fait. En deuxième lieu, vous demandez le sort des gens qui ont été arrêtés. Je voudrais vous rappeler que ces gens-là qui ont tenté le putsch l'ont fait contre un pouvoir légitime. Un mandat qui va de 2010 à 2015. Et la loi burundaise réprime tous ceux qui veulent accéder au pouvoir par la force. Je voudrais lever cet équivoque. Ces gens-là ont voulu renverser les institutions légalement reconnues. Je crois que cela est clair. Qu'on laisse la justice terminer ce qu'elle a déjà commencé et qui a atteint une étape satisfaisante. Il ne faut pas polémiquer sur les manifestations qui n'en est pas une. C'était plutôt des insurrections et les insurrections sont aussi réprimées par la loi.
Le porte-parole du gouvernement a négligé délibérément les lourdes conséquences occasionnées par ce troisième mandat inconstitutionnel. C'est la réaction de Maître Dieudonné Bachira-Hichidze, un des avocats de la défense, précise que le procès a été intenté contre l'État du Burundi et non contre le défunt président Pierre Nkurunziza. Le gouvernement devrait s'incliner devant la décision de la Cour de l'EAC et accepter de réhabiliter les victimes de ce troisième mandat illégal. Suivez Maître Dieudonné Bachira-Hichidze.
Le minimum que le Burundais attendait, c'était un mea culpa. Le représentant du gouvernement devrait se prosterner devant le peuple burundais qui a été malmené, qui a été meurtri par le régime pour demander pardon. Les Burundais s'attendaient à ce que le CNDD-FDD présente des excuses formelles à la population, aux défendeurs de la légalité constitutionnelle qui ont été tués, malmenés, exilés, expropriés illégalement, emprisonnés illégalement. Par rapport maintenant aux prétendus arguments qu'il avance, le représentant du gouvernement ose dire « voilà, le troisième mandat est fini, le dossier n'a plus d'objet ». Pour parler d'un mandat, on ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, on dit voilà, les 5 années sont terminées. Loin de là, il faut plutôt analyser les effets de ce troisième mandat. Le troisième mandat, qui a été décidé par le parti au pouvoir, a causé de milliers de morts. Plus de 300 000 réfugiés sont encore à l'extérieur du Burundi. Parce qu'ils ont peur de revenir, ils ont été pourchassés. L'urgence était de voir comment revenir en arrière, comment rétablir la légalité et comment réhabiliter les gens qui ont été victimes de ce troisième mandat. Donc, plutôt que de retourner dans des guéguerres et dans une sorte de repli sur soi, le gouvernement avait intérêt à réconcilier le peuple burundais, à recoudre le tissu social burundais, en essayant de tirer les leçons de cet arrêt historique, loin des déclarations du représentant du gouvernement, qui dit que cet arrêt n'aura pas d'effet. Nous pensons plutôt que c'est un arrêt historique qui permettra au Burundi de revenir sur les rails de la paix, de la justice et de la démocratie.
Le patrimoine des cadres du nouveau gouvernement sera bientôt déclaré, mais d'une façon secrète. C'est la déclaration faite par Prosper Ntahorwamiye, le porte-parole du gouvernement, lors de la même conférence publique. Le LUCOM trouve que ce langage est purement politique car la loi stipule que la déclaration des biens et du patrimoine ne peut pas être confidentielle. Le point avec Eddy-Claude Nininaz.
Dans cette conférence publique des porte-paroles des institutions, le porte-parole du gouvernement indique que la déclaration des biens et patrimoines des cadres de l'État se fait bel et bien. Prosper Ntahorwamiye précise toutefois que cette activité reste confidentielle.
Je voudrais tranquilliser ceux qui nous suivent. Cette loi a été mise en application. Ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas une déclaration faite pour montrer leurs biens ou leurs maisons. C'est une activité faite discrètement. Les organes chargés de recevoir les personnes qui déclarent leurs biens existent bel et bien. Je voudrais vous tranquilliser que cette activité est faite, mais d'une façon secrète. Le fait qu'une personne déclare ses biens et ne le fait pas au marché, ni à la télévision, ni à la radio.
L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques affirmait aussi que les biens et patrimoines des cadres de l'État sont confidentiels. Toutefois, Gabriel Ouffieri, le président de l'OLUCOM, explique que la déclaration des biens n'est pas confidentielle.
C'est vrai, la richesse des mandataires publics, cadres et hauts cadres de l'État, la loi prévoit que ça reste confidentiel, mais ce que je dois vous dire, ce qui n'est pas confidentiel, c'est le fait d'aller faire la déclaration. Ça, ce n'est pas confidentiel. Mais ce qui est confidentiel, comme je viens de vous le dire, c'est le contenu. C'est-à-dire les biens et patrimoines qui dépassent 2 millions de francs doivent être déclarés. Et ces biens appartiennent d'un côté aux mandataires publics, aux cadres et cadres de l'État. Donc, le langage dit porte-parole du gouvernement, pour nous, c'est un langage politique, mais ce que nous avons besoin pour le moment, c'est un langage technique. On a besoin vraiment que la chose publique soit protégée.
Rappelons que le président Évariste Ndayishimiye avait lui-même contesté cette déclaration des biens et patrimoine des cadres du gouvernement, arguant que cette tâche n'est pas obligatoire.
Dernier dossier de ce journal, le personnel de la société de gardiennage Alpha Security Company ASEC dit ne pas être content de la gestion de cette société. Parmi les problèmes que soulève ce personnel, c'est notamment le non-respect des échéances de paiement des salaires au personnel. Les travailleurs affirment également que l'entreprise ne verse pas les cotisations à l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS. Il parle également d'un comportement du chef de l'entreprise qui tend à diviser le personnel. Plus de détails avec Karine Doussavé.
Les employés de l'association Alpha Security Company disent que le non-respect des échéances de paiement de salaire se trouve parmi leurs grandes préoccupations. En guise d'exemple, le salaire du mois d'août dernier a été octroyé hier le 29 septembre. Écoutez ces lamentations.
Nous venons de passer plus de 8 mois sans avoir notre salaire à l'échéance convenue. Le cas le plus frappant est celui de ce mois où le salaire qu'on devait avoir eu à la fin du mois d'août a été payé le 29 de ce mois, c'est-à-dire hier. Est-ce que cela peut passer inaperçu? Est-ce que vous ne sentez pas que c'est catastrophique?
Ce qui les touche beaucoup plus, c'est la déception qu'ils ont de la part des nouveaux représentants de la société. Ils croyaient que les choses allaient positivement changer, mais à leur grande surprise, ces représentants se sont adonnés au favoritisme. De plus, les cotisations INSS des travailleurs qui en ont le droit n'arrivent pas à destination.
Avec les nouveaux dirigeants, nous croyions que les choses allaient changer. Malheureusement, rien n'a changé. On espérait que le nouveau dirigeant, Mindozi Loïc, allait améliorer la situation. Mais il n'a rien fait jusqu'à présent. Il n'a fait que privilégier le personnel administratif parce que ces gens reçoivent à temps leur salaire. C'est vraiment un grand problème. Ils déconsidèrent les petits travailleurs alors qu'ils sont les plus productifs. Et là, nous n'évoquons pas les problèmes avec l'INSS. Parmi nous, certains ne cotisent pas à l'INSS. AESEC ne verse pas leur part depuis 2018. Est-ce que vraiment on sera capable de rembourser tous ces arriérés?
Ces employés demandent au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire de chercher des experts pour faire un audit interne dans cette entreprise pour savoir comment ces fonds sont utilisés.
Nous demandons au ministre de l'Intérieur de chercher un inspecteur pour aller voir ce qui se passe à l'Alpha Security Company. Il faut un audit interne. Sinon, nous ne comprenons pas où va tout l'argent de cette entreprise.
La rédaction de la radio Inzamba a tenté de chercher Mindozi Loïc, le directeur général de Alpha Security Company, pour qu'il s'exprime par rapport aux lamentations de ses employés, mais sans succès.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de passer un très bon début de week-end chez vous. Au revoir et à la prochaine.